Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite France Inter Plus. Cette semaine, France Inter Plus de Sigmund Freud à l'occasion des 80 ans de sa disparition. C'était dans la nuit du 23 septembre 1939. Freud mourait des suites d'un cancer de la mâchoire à Londres où il s'était installé, où il s'était exilé depuis son départ de l'Autriche en 1938. Il n'y a qu'un seul enregistrement audio et radio de la voix de Freud. C'était pour la BBC en 1938. Il y résumait sa carrière. Alors nous, ce soir, nous remontons au 24 septembre 1949, 10 ans après la mort du père de la psychanalyse. Sur la chaîne nationale, le journaliste Paul Perronnet recevait un groupe de spécialistes de la psychanalyse et de la psychiatrie. L'enjeu ? Faire le point sur l'œuvre de Sigmund Freud. Alors vous allez noter les craquements du disque d'enregistrement dans cette archive sonore étonnante. Plus de Freud, soirée d'Ivan sur France Inter.
Il y a ce soir 10 ans, le 24 septembre 1939, le professeur Sigmund Freud s'éteignait à Londres à l'âge de 83 ans. Il avait fait la lumière sur les profondeurs inconscientes de la personnalité, créé une thérapeutique nouvelle des troubles de l'esprit et jeté les bases d'une science, la psychanalyse, qui n'a cessé depuis de développer dans de nombreux domaines ses rayonnantes conquêtes.
À l'occasion de cet anniversaire, quelques personnalités vont entreprendre de dresser ici un bilan provisoire de l'œuvre de Sigmund Freud. Paul Perronnet va mener le débat.
Je vais demander au docteur Parcheminet de nous parler un peu de Freud homme. Vous me disiez, docteur, que vous avez connu Freud voici une vingtaine d'années, c'était donc 10 ans avant sa mort. C'était déjà un Freud triomphant que vous aviez affaire.
C'était déjà, comme vous dites, un grand personnage du point de vue scientifique indiscuté.
Et pourtant, 30 ans seulement auparavant, c'était quelqu'un qui n'était accueilli que par des sarcasmes.
Précisément, n'est-ce pas ? Le modèle de Freud a été d'une inflexibilité de caractère. Et c'est précisément ce côté inflexible de son caractère qui lui a permis toutes ses découvertes. Car lorsque il a essayé en 1886 et 88 ses premières observations, il fut accueilli à Vienne par ses collègues avec énormément de scepticisme et d'ironie. Tout autre que lui peut-être eût abandonné la partie, mais Freud lui-même alors à ce moment-là se réfugia dans ce qu'il a appelé un splendide isolement qui a duré plus de 10 ans. Et ce splendide isolement, il en a profité pour mettre au point la plupart de ses découvertes. Une de ses découvertes les plus incontestées, en l'espèce, le Traum der Träume, la science des rêves, est sortie de cette période d'isolement. Elle marquait en quelque sorte le début du grand Freud.
Je voulais signaler, docteur, que dans la 5e avenue, il était courant de recevoir des prospectus psychanalytiques et l'on m'a fait savoir l'autre jour, c'est mieux encore, qu'une boutique de la foire du boulevard Bonne Nouvelle vend pour 25 francs des consultations psychanalytiques. Mais ceci même est tout de même un phénomène de civilisation, si l'on peut dire, dans la mesure où cela traduit un désir d'épanchement, de confession, de communication et de déchargement psychologique dans la société contemporaine.
Et ça traduit tout de même essentiellement le succès, malgré tout, le succès d'une doctrine. Docteur Laurent.
En tant que neuropsychiatre, je puis dire en effet que l'œuvre de Freud a apporté des moyens extrêmement importants de mieux soigner nos malades. Freud, d'ailleurs, avait fait la distinction entre ce qui est organique, physiologique, et ce qui est d'essence surtout psychique. Et c'est aux choses d'essence surtout psychique qu'il s'adressait. Or, ce que nous permet de guérir, et ça a été justement un autre progrès de la psychiatrie que nous devons à Freud, ce que Freud nous permet de guérir, ce sont justement ces états qui sont non organiques et en quelque sorte assez faiblement physiologiques, tels que les obsessions, tels que l'hystérie, tels que l'éthique, les phobies, certaines anomalies et perversions, notamment les perversions sexuelles, et aussi, à un très haut degré, les troubles du caractère. Sur tous ces points qui tiennent à la psychiatrie, qui appartiennent à la psychiatrie, nous avons fait, on peut le dire, d'immenses progrès grâce à l'apport de Freud.
Donc, succès incontestable dans le domaine de la pathologie mentale.
En épidémiologie, l'œuvre de Freud me paraît capitale au point de vue de la psychologie même normale. Elle me paraît capitale pour avoir révélé d'une manière infiniment, me semble-t-il, plus directe que n'avait pu faire l'œuvre de Charcot ou l'œuvre de Pierre, l'œuvre contemporaine de Pierre Janet, avoir révélé l'importance des éléments inconscients dans la vie mentale normale. Enfin, l'œuvre principale de Freud, au point de vue de ses résultats psychologiques, je parle de la psychologie normale, me paraît être d'avoir créé une sorte de passage entre le psychologique et le physiologique.
S'il fallait prendre, me semble-t-il, une vue du rôle historique de Freud, je dirais en deux mots, d'une formule, il me semble que cet homme qui est parti de l'excessive critique rationaliste aura apporté des curiosités dans l'esprit de son temps, chez ses contemporains, dans la littérature, qui sont peut-être un peu au rebours de la thérapeutique qu'il cherchait, car je crois que le résultat du freudisme dans l'ensemble aura été d'exaspérer ou de faire sortir l'imagination beaucoup plus tôt que de la réfréner.
À l'occasion du 10e anniversaire de la mort de Sigmund Freud, Maurice Pradin de l'Institut, le docteur Logre, le docteur Parcheminet et Armand Hogg ont tenté d'établir un bilan provisoire de la psychanalyse.
Vous écoutez France Inter Plus de Sigmund Freud avec tout de suite les jours du siècle. Le 18 novembre 1997, Ladislas Deoyos recevait sur France Inter la psychanalyste et historienne Elisabeth Roudinesco. Dans cette émission d'histoire, l'invité revient sur les premiers travaux de Sigmund Freud qui fonderont sa théorie.
Par la parole qui va naître, le mot psychanalyse est employé pour la première fois en 1896, suppose en effet l'idée qu'on mêle le sujet, il doit explorer lui-même son inconscient et qu'il n'a plus besoin du regard. Le regard, c'était un peu l'hypnose. On est passé de l'hypnose, c'est-à-dire de l'idée d'endormir les gens pour qu'ils puissent parler, à l'idée du retrait de ce regard, pour qu'ils puissent faire l'introspection seul. Et donc, le soutien vient de la parole, avec l'idée que le médecin, l'analyste, c'est pas encore l'analyste, se place derrière.
D'accord. D'ailleurs, rendons à César, etc. Le mot psychanalyse a été écrit en français par Freud, me semble-t-il.
Oui, c'est dans un article, parce que c'est un article que Freud a écrit en français. Et c'est là qu'apparaît pour la première fois le mot, qui est attribué d'ailleurs à Joseph Breuer, qui était son ami avec lequel il a publié les études sur l'hystérie.
Alors comment est venue la passion de Freud pour ce que j'appellerais les avaries de l'esprit? Il était psychiatre, c'est ça?
Non, il était neurologue et tous les médecins de cette époque s'interrogeaient sur les maladies nerveuses. Pas sur les maladies mentales, il n'était pas psychiatre, c'est une autre voie. Bien entendu, ensuite, la psychanalyse s'appliquera aussi aux maladies mentales. Et toute la fin du 19e siècle s'interrogeait notamment sur l'hystérie, c'est-à-dire cette maladie qu'on attribuait déjà plus à l'utérus, on savait qu'elle était psychique, mais on commençait à réagir, si vous voulez, contre ce qu'on appelait le nihilisme thérapeutique de la médecine classique, qui consistait à classer les maladies nerveuses, mais sans écouter le malade. On classait, on faisait des nosographies très sophistiquées.
Nosographie veut dire ?
Nosographie, classification des maladies. On les dénommait, mais on n'écoutait pas le discours des malades.
Voici ce que disait d'ailleurs Marie Bonaparte, princesse de son état, arrière-petite-nièce de Napoléon, qui s'était d'ailleurs fait psychanalyser par Freud avant de devenir son amie, puis l'amie de sa fille Anna, qui avait repris le flambeau après la mort du maître. C'est un enregistrement de décembre 1957, il y a donc 40 ans tout juste.
J'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être l'élève de Freud en 1926. J'ai subi par lui une analyse didactique qui m'a permis de connaître la pensée du maître et surtout de connaître la façon dont il vivait dans son intimité tellement honorable et tranquille, contrairement à ce que tant de jours on croyait que Freud était un personnage bizarre qui ne s'intéressait qu'aux problèmes de la sexualité en vertu d'une perversion personnelle. Je n'oublierai jamais le salon où il recevait ses patients, qui étaient plutôt son bureau, le divan sur lequel avait été créée l'analyse, sur lequel j'eus également l'honneur de m'étendre, au-dessus de duquel trônait le portrait de Charcot, dont il avait gardé un grand souvenir et pour lequel il avait un grand culte. Freud, d'ailleurs, était un des êtres les plus doux et les plus dénués d'agression et de méchanceté que l'on puisse voir. Il vivait d'une façon extrêmement simple. Il me disait un jour, on dit que les hommes de génie sont insupportables dans leur famille. Demandez à ma famille Si je suis insupportable, je ne dois donc pas avoir de génie.
La France est aujourd'hui le pays qui possède le plus grand nombre de psychanalystes par habitant, mais à l'époque de Freud, ils étaient rares, ceux qui tentaient des expériences nouvelles, comme l'hypnose, vous l'avez cité tout à l'heure. Alors, pour soigner l'hystérie, on utilisait l'hypnose, et ça a fasciné d'ailleurs Freud, puisqu'il est venu voir les expériences qui se déroulaient à Paris, chez un certain professeur Charcot. Il exerce à la Salpêtrière, il va fasciner Freud, venu tout exprès de Vienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Charcot était le plus grand neurologue de l'époque. Il n'y avait pas qu'à Paris qu'on parlait de l'hystérie, mais il y avait plusieurs écoles qui essayaient de s'interroger sur ce phénomène de convulsions de femmes qui se mettaient dans des crises et qui mimaient les maladies des autres. Et ces convulsions n'avaient pas de... Il n'y avait pas de lésions organiques. Donc on s'interrogeait. Et Charcot utilisait l'hypnose pour faire cesser les contractures et les convulsions. Il endormait les femmes et sous hypnose, il leur commandait de guérir. Et ça montrait en fait que ces crises, que cette hystérie était une maladie fonctionnelle et non pas organique.
Oui, la méthode de Charcot, c'est pas déjà un petit début de la psychanalyse ?
Bien sûr. La psychanalyse suppose le retrait. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout besoin ni de magnétisme, ni d'hypnose, ni de... Ça devient l'exploration par soi-même, et c'est évidemment beaucoup plus large, parce que l'hypnose ne marche pas du tout sur tout le monde.
Ainsi donc, Freud réunit son monde à Salzbourg en 1908. Quelle importance ce congrès pour la suite de la psychanalyse ?
Ah, c'est capital, c'est le début de l'international. L'association internationale sera donc fondée 2 ans plus tard. En 1910, mais en 1908, je dirais que c'est la fin de l'isolement. Au début de la psychanalyse, 1902-1908, Freud réunit autour de lui un groupe de Viennois qui sont les premiers freudiens. Et 1908, évidemment, ça a déjà commencé à conquérir. Il y a pas seulement Vienne, il y a eu la rencontre avec Jung, donc la Suisse, il y a tous les pays de langue allemande, tout cet empire austro-hongrois, et c'est l'apogée, disons, du premier freudisme.
Oui, il avait besoin de ça, puisque il me semble qu'après les premiers travaux de psychanalyse, il se soit retrouvé très très isolé, non ? Il a travaillé seul longtemps.
Vous savez, ça c'est
avant d'être compris.
C'est une légende des hagiographes. Freud était à la fois seul et pas seul du tout, parce que il était très attaqué. Il y avait des débats sur l'origine de toutes ces maladies. Tous les savants, tous les médecins de l'époque s'en occupaient. Comme aujourd'hui, on s'occupe des problèmes de génétique et puis émerge un savant supérieur aux autres. C'est ça qui est arrivé. L'idée du splendide isolement est inventée par Freud. En fait, si vous voulez, bien entendu que les théories de Freud à Vienne sont immédiatement contestées. Mais comme dans tous les débats scientifiques, ce qu'on reproche à Freud à ce moment-là, c'est d'adhérer aux thèses de Charcot qui sont contestées par la science viennoise. Donc, il se réfugie pas du tout tout seul. Il passe son temps à polémiquer comme tous les savants du monde. Alors, la grande nouveauté, évidemment, de Freud, puisqu'il est le seul à avoir inventé une nouvelle science, une nouvelle forme d'analyse, la psychanalyse, précisément, c'est d'avoir rénové à partir de ce qui existait déjà. Donc, il ne faut pas en faire ce génie ex nihilo qui sortirait de nulle part. Il était ancré dans les débats de son époque, et c'est ça, d'ailleurs, qui fait sa grandeur.
Elisabeth Rodinesco, à partir de quand Sigmund Freud a été connu du grand public ?
Alors, le grand public, c'est beaucoup plus tard. C'est évidemment les années 20, quand la psychanalyse est devenue un mouvement, quand ça a passionné le monde entier, quand des Américains sont venus se faire analyser à Vienne, quand il a formé des disciples, quand c'est devenu une internationale. Alors là, évidemment, la psychanalyse est devenue quelque chose de populaire dans le monde entier, puisque ça concernait tout le monde. Il y avait des malades qu'il fallait soigner, donc ça ouvrait des nouvelles voies thérapeutiques.
Il faut dire aussi que dans ce monde de la psychanalyse dans lequel vous excellez, il y a beaucoup de contradicteurs.
Tout à fait.
Lacan, lui-même, il a su reprocher quelques petites choses à Freud, non ?
Si vous voulez, Lacan a été celui qui a voulu rénover le freudisme. Il a plutôt critiqué ce qu'il appelait l'académisme ou la routine psychanalytique. Le mouvement psychanalytique est fait d'écoles divergentes. Les psychanalystes se sont disputés de façon considérable, comme les physiciens, comme les biologistes, comme, si vous voulez, parce que c'est une science ou parce que ça touche à la science, il y a des débats internes, souvent très violents.
Yesterday I was a word. naked. Now I am a happy song placed on the lips of a woman. In her presence I light up as the earth under the sun. By her sound my verses flow. Please don't you ever stop singing. Now she has me under her skirt, lies down with me into our world where all I have heard sounds on you, and all I am worth depends on you. Come, babe, let love have this evening. Life was not aware of me, and I wasn't aware of life. Now its flames, they warm my heart, they light the path towards her. Where she has me under her skirt, where she tells me, come, babe, let love have this evening. Come, babe, let love have this evening. Come, babe, let love have this evening. Come, babe, let love have this evening.
Versé signé Tamino, la musique intime et envoûtante à la fois classique et contemporaine de ce jeune Belge d'origine égyptienne. Vous écoutez le nouveau rendez-vous France Inter plus de Freud 80 ans après sa mort. Après Freud, théoricien, fondateur de la psychanalyse, intellectuel viennois, on termine ce premier épisode avec un gros plan sur l'homme Freud. Cosmopolitan, le 30 décembre 2012, Paula Jacques recevait Toby Nathan au Théâtre de l'Odéon, son émission en public, pour y dresser le portrait d'un Freud intime.
Freud, il est né en Tchécoslovaquie, en Moravie, hein, ce qui deviendra la Tchécoslovaquie plus tard. Il est né là-bas, ils font des mauvaises affaires, ses parents font de mauvaises affaires. Ils vont à Leipzig d'abord, et ensuite ils vont à Vienne, et ils s'installent comme des émigrants. Et donc lui, il s'adapte très vite, il devient très vite un petit viennois. Ce qui le caractérise, c'est que lui, il est excellent à l'école. Freud est un petit génie, ça deviendra un grand génie, mais ça commence, il est un petit génie déjà. Et donc, et à l'école, non, c'est vrai, et il est tellement intelligent que personne n'ose rien dire. Ils vont pas dire, mais t'es un étranger, etc. Il est toujours premier en classe. Son père disait de lui, il y a plus d'intelligence dans le petit doigt de Sigmund que dans tout mon cerveau. Comme on le dira peut-être tout à l'heure, il avait peut-être pas tort.
Oui. Y a beaucoup de films qui ont été tournés sur Freud, dont le film de Huston. Mais récemment, il y a ce film de David Cronenberg où Viggo Mortensen interprétait Freud.
Il est très très beau, hein, dedans.
Oui, très beau. Il ressemble à Freud d'ailleurs.
Ouais, ouais, ouais. Hein, il était beau Freud.
Il était beau Freud. Hein. Et Viggo Mortensen est face à lui, Michael Fassbender, qui joue Jung.
Je crois que vous ne mesurez ni la force ni la détermination de nos opposants. Le Gotha médical, pour ne citer que lui, beuglant sur l'air de Freud au bûcher. Mais cela n'est rien face à ce qui se produit quand nos idées parviennent finalement vider de leur substance à l'oreille publique. Dénégation, frénésie, toute cette furie incohérente.
Mais ne pourrait-on pas en trouver la cause dans votre interprétation obstinément sexualiste des données cliniques que vous êtes amené à découvrir ?
Je me borne à montrer ce que mes expériences m'indiquent comme étant la vérité. Et je puis vous assurer que dans un siècle, nos travaux susciteront la même intolérance. De toutes les façons, je n'ai fait qu'ouvrir une porte. C'est aux jeunes comme vous d'en franchir le seuil. Et bien sûr, l'autre difficulté, les munitions pour nos ennemis, c'est que nous tous ici à Vienne, dans notre cercle psychanalytique, sommes juifs.
Je ne vois pas ce que cela peut changer.
Vous me permettrez de vous le dire, votre remarque est merveilleusement protestante.
Toby Latin, donc, on voit là, hein, il est conscient de ses ennemis, il en a réellement beaucoup.
Il exagère aussi, hein. Bon, il a des ennemis, c'est certain, il a des ennemis. Pire que ses ennemis, ce qu'il supportait pas, c'était l'indifférence, hein. Freud était aussi un provocateur, hein, et d'une certaine manière, un provocateur intelligent, c'est pas provocateur d'idées, quoi, en quelque sorte.
Mais lui, c'est quand même un homme extrêmement courageux. Il va dire lui-même qu'il a, il a porté une atteinte mortelle au narcissisme des êtres humains en expliquant que tous les troubles mentaux, toutes les névroses se rapportent à la sexualité.
Son affaire l'atteinte qu'il considère avoir portée au narcissisme de l'homme, c'est en disant que on n'était pas le propriétaire de son moi. On croit être maître de ses désirs, de ses pensées, et en vérité, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est plus fort que nous et qui nous dirige. Hein. C'est de ça qu'il parlait. Maintenant, la sexualité, c'est vrai que c'était une vraie provocation, ça, et ça a été un coup de tonnerre. Il n'était pas le seul à l'époque, hein. Il y en a qui sont allés plus loin que lui, mais la plupart des gens de son milieu allaient beaucoup moins loin que lui, hein, ça c'est clair. Hein. Il est allé très très loin, surtout avec la clientèle qu'il avait. Il faut savoir que les patients de Freud du début, ce sont des très grands bourgeois, très installés dans la haute bourgeoisie viennoise. Et donc là,
ils ont les névroses, plus l'argent, plus les loisirs.
Ils ont les
névroses. Pour être guéris.
Ils ont les névroses, l'argent, les loisirs, mais ils parlent pas de sexe, hein. Ils parlent pas de sexe. Et lui, chaque fois qu'il voit une patiente, il explique sa pathologie par la sexualité. À ce moment-là, les années 1900, il devient monoïdéique, quasiment.
Mais ça
va lui passer, hein. C'est une période aussi chez Freud. Hein.
Toby Nathan, est-ce que c'est quand même pas une démarche extraordinaire et complètement originale? C'est-à-dire que lui, il va s'auto-analyser à travers ses rêves et à travers ses souvenirs d'enfance. Et ça, il est le seul à faire ça. Et justement, Didier Sandre va nous lire un texte de ses souvenirs, souvenirs couverture, où il replonge dans ses souvenirs d'enfance.
Je dispose d'un assez grand nombre de souvenirs d'enfance précoces que je peux dater avec grande certitude. À l'âge de 3 ans révolus, j'ai en effet quitté la petite localité de ma naissance pour aller résider dans une grande ville. Or, mes souvenirs ont tous pour cadre la localité où je suis né. Ils datent donc de la 2e à la 3e année. Il s'agit ici d'un matériel, une scène assez longue et plusieurs petits tableaux, dont je ne sais effectivement que faire. La scène me paraît assez indifférente et sa fixation incompréhensible. Je vois une prairie rectangulaire un peu en pente, verte et à l'herbe drue, dans le vert énormément de fleurs jaunes, de toute évidence du pissenlit commun. En haut de la prairie, une maison de paysans, devant la porte de laquelle 2 femmes, debout, bavardent ensemble avec animation. La paysanne a un foulard sur la tête et une bonne d'enfant. Dans la prairie jouent 3 enfants. Je suis l'un d'entre eux, âgé de 2 à 3 ans. Les 2 autres, mon cousin qui a 1 an de plus et sa sœur, ma cousine, qui a presque exactement mon âge. Nous cueillons les fleurs jaunes et tenons chacun à la main un bon nombre de fleurs déjà cueillies. C'est la petite fille qui a le plus gros bouquet. Mais nous, les garçons, nous lui tombons dessus comme d'un commun accord et lui arrachons ses fleurs. Tout en pleurs, elle remonte la prairie en courant et en consolation reçoit de la paysanne un grand morceau de pain noir. À peine avons-nous vu cela, nous jetons les fleurs, nous nous précipitons aussi vers la maison et réclamons de même du pain. Nous en recevons à notre tour, la paysanne coupe la miche avec un long couteau. Ce pain a dans mon souvenir un goût absolument délicieux et là-dessus s'interrompt la scène. Qu'y a-t-il donc dans cette expérience vécue qui justifie la dépense mémorielle à quoi elle m'a amené ? Pouvez-vous donc m'indiquer une voie qui conduise à l'éclaircissement ou à l'interprétation de ce souvenir d'enfance superflu ?
Docteur Toby Nathan, pouvez-vous nous indiquer un éclair? Oui, à la votre avis alors.
Bon, alors, c'est un texte qu'il a présenté comme si c'était un patient qui lui parlait. Or, on a établi, on sait maintenant, qu'il se parle à lui-même en fait. Hein. Donc le patient c'est lui, et c'est lui qui interprète au patient qui est lui, quoi. Hein, voilà. Donc c'est déjà une forme assez singulière. Et ce type de texte de Freud, c'est là où il est le meilleur. Hein. Il dit, on croit se souvenir, on a des souvenirs d'enfance, comme ça, on a des souvenirs qui... Parce que on a des très longues périodes où on n'a aucun souvenir, puis juste un tout petit souvenir. Et ce souvenir, pourquoi souvent il est banal, il semble pas important. Comment se fait-il que c'est celui-ci précisément qui a survécu à l'oubli? Et Freud, je trouve, dans ce texte, est magistral, et il donne une interprétation en disant, attention... C'est pas un simple souvenir. C'est un premier souvenir, il y en a un second par-dessus, et il y a une décision. Ça semble être un souvenir, mais en fait, c'est un programme pour la vie. Et en fait, je vous la fais brève, hein, il dit, je peux renoncer à déflorer la jolie fille que je veux, parce qu'il lui arrache ses fleurs, bon, évidemment, etc. Et donc, je renonce à déflorer la jolie fille que je veux pour gagner mon pain.
Ah bon?
Ben bien sûr, c'est ça que ça
signifie. C'est aussi simple que ça. Mais,
non, c'est pas aussi simple parce que ça prend 20 pages, hein. Ça prend 20 pages pour qu'il explique ça. Mais c'est ça qu'il dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus encore. C'est-à-dire que Freud, à ce moment-là, il est à Vienne. De temps en temps, il rentre à Freiberg où sont restés, alors, il dit son cousin et sa cousine. Mais c'est pas son cousin et sa cousine. C'est son neveu et sa nièce. Quand il revient, à 14 ans, pour visiter son demi-frère, en fait, hein, qui est resté à Freiberg, quand il rentre au bled, quoi. Hein. Et à ce moment-là, il tombe amoureux de sa nièce. Et ce qu'il ne sait pas, ou alors il le sait, et il ne le dit pas en tout cas, c'est que c'est le mariage préférentiel dans la tradition de la Bible, dans la tradition antique, puisque le mot même... par lequel on dit mon chéri, Dodi, mon chéri,
ça veut dire mon oncle.
Oui, ça veut dire mon oncle. Oui. C'est-à-dire qu'on sait qu'on se marie avec qui? Avec son oncle. Donc Pauline, la petite qu'il décrit comme sa cousine, en vérité, c'est sa nièce et elle devrait être son épouse. Elle est son épouse, comment on va dire, dans le système. Il arrive là, à 14 ans, et il dit, et il tombe amoureux d'elle. Et ça dure le temps de la visite à Freiberg. Et quand il repart, il dit, ouais, non. Je vais faire médecine. Et cette décision-là, il la prend dans le souvenir. Et ça, c'est une découverte formidable. Il dit, regardez, ça semblait être un souvenir, c'est le programme d'une vie qui est là-dedans.
Je trouve aussi très, très formidable la façon dont il décrit les cas. Parce qu'à chaque fois, ce sont des petites scénettes,
ouais.
Des fictions, des histoires, presque des petits romans.
Ouais, il aurait pu être romancier.
Et on est vraiment suspendu à l'écriture du narrateur, Freud en l'occurrence, là qui nous décrit le cas de Madame PJ, ça n'a rien à voir avec moi, 27 ans, et le texte Didier Sand recommence de la sorte.
Elle était mariée depuis 3 mois, son mari, voyageur de commerce, avait été obligé de la quitter quelques semaines après leur mariage, et cela faisait déjà des semaines qu'il était absent. Il lui manquait beaucoup. Elle désirait ardemment qu'il soit là. Elle avait été chanteuse, ou du moins avait reçu une formation dans ce but. Pour passer le temps, elle chantait en s'accompagnant au piano, quand elle eut brusquement un malaise qui venait du ventre et de l'estomac. La tête lui tourna, oppression, sentiment d'angoisse, paresthésie cardiaque, elle se dit qu'elle devenait folle. Un moment plus tard, il lui vint à l'idée que le matin, elle avait mangé des œufs et des champignons. Elle se crut donc empoisonnée. Cependant, cet état passa rapidement. Le lendemain, sa bonne lui raconta qu'une femme habitant dans la même maison était devenue folle. À partir de là, l'idée de contrainte anxieuse, qu'elle aussi allait devenir folle, ne la quitta plus. Voici l'argument. Je présuppose donc, tout d'abord, que l'état qu'elle avait connu à cette époque avait été un accès d'angoisse, une déliaison sexuelle qui se transpose en angoisse. Elle eut soudain la désirance de son mari, c'est-à-dire d'un rapport sexuel avec lui. À ce moment-là, elle tomba sur une idée qui suscita un affect sexuel et par la suite une défense. Elle s'effraya et fit une fausse connexion ou une substitution. Il y avait en même temps, c'est certain, autre chose encore. Une sensation dans le bas-ventre, une contracture et une envie pressante d'uriner. C'est ce qu'elle confirme maintenant. Le manque de sincérité chez les femmes vient d'abord de ce qu'elles laissent de côté lorsqu'elles parlent de leurs états, les symptômes sexuels caractéristiques. C'était donc bel et bien une pollution.
Merci Didier Sandre. Alors, c'est un texte absolument hallucinant, un petit roman tout à fait convaincant, pourquoi pas. Mais après tout, on aurait pu écrire exactement le contraire aussi. C'était... Ou le mettre dans un autre ordre, ou l'analyser autrement. Pourquoi tout ramener forcément à la pollution, au désir sexuel secret de cette femme?
Bon, d'abord, la technique qu'utilise Freud à ce moment-là, il vient de sortir de l'hypnose. Pour un intellectuel, l'hypnose, c'est quand même assez physique, quoi.
Puis, de toute façon, donc, c'est un rationaliste, il a horreur de la sorcellerie.
C'est un intellectuel. Il veut remplacer l'hypnose par quelque chose de plus intellectuel, qui comprend. Il a une théorie à ce moment-là, c'est-à-dire, il dit que la stase sexuelle, quand la sexualité n'arrive pas au bout, c'est-à-dire qu'elle ne parvient pas à cette espèce d'élation de l'âme et du corps, à ce moment-là, ça rend malade. Et lui, il explique ça, il se dit, peut-être qu'il y a même une toxicité des substances sexuelles, qu'il faut les évacuer, quoi. L'éjaculation, la pollution, ça dégage les toxiques et ça va mieux après, quoi. Enfin, il y a une théorie comme ça. Mais en même temps, il y a, à ce moment-là, il y a un révolutionnaire en lui. Parce qu'il dit, regardez la détresse mentale de cette bande de névrosés viennent, c'est une bande de névrosés. D'où ça vient? De la répression sexuelle. C'est un révolutionnaire.
Alors ça, je comprends que ça vous enthousiasme.
Ouais, moi
complètement.
Ça m'enthousiasme.
Mais par ailleurs, Toby Nathan, bon, écoutez, ces détracteurs qui écrivent des livres, et Jung notamment, dont il va se séparer, parce que Jung lui reproche de tout ramener systématiquement à la sexualité, à la libido.
Jung faisait, mais ne disait pas.
Bon, par exemple, les détracteurs actuellement disent qu'au fond, il a fondé une espèce de fiction en partant de son analyse à lui, c'est-à-dire que son fameux complexe d'Oedipe, c'est lui qui est jaloux de son père et qui désire sa mère. Il y a on lui reproche d'avoir plaqué son schéma intérieur à lui sur le fonctionnement universel des êtres humains.
Bah, y a du vrai. Que Freud était amoureux de sa mère, c'est vrai. Que tous les garçons sont amoureux de leur mère, je suis pas sûr. Hein. D'abord, sa mère, elle était superbe. Hein. Elle était très jeune. Il avait 42 ans, je crois, le père, et la mère avait 19 ans. Quoi. Elle était plus jeune que son frère aîné. Quoi. Donc, il était très troublé par sa mère. Et il décrit parfaitement cet épisode dans le train. Et c'est pendant son émigration. Hein.
Il a 4 ans, ce moment-là.
Il a 4 ans. C'est pendant l'émigration. Les choses ne sont plus en ordre. Il est dans le train. Et puis, elle se déshabille, elle fait pas attention. Et elle se montre nue devant lui. Et là, je veux dire, ils font quoi, Freud. Hein. C'est-à-dire, c'est un moment, ça lui est resté dans la tête. Donc, Freud certainement aime sa mère. Freud certainement est jaloux et de son père, et de son grand frère, Emmanuel, qu'il pense être le vrai époux de la mère, d'ailleurs. Mais il dit, ils ont le même âge, ils doivent fricoter ensemble, ce qui est évidemment pas possible, mais enfin, j'en sais rien, après tout. Mais c'est un moment très important de
Alors, Toby Nathan, vous avez écrit un roman qui s'intitule Freud, mon patient, et dans lequel... Donc,
mon patient, Sigmund Freud.
Mon patient, Sigmund Freud.
C'est moi qui ai écrit ça.
C'est vous qui avez écrit ce roman. Et justement, vous en savez beaucoup sur son fonctionnement amoureux avec les femmes. Didier Sandre.
Frau Professor est une couturière de talent, une maîtresse de maison délicieuse, mais elle s'intéresse peu aux idées originales qui révolutionneront le monde. Il y avait auprès d'elle sa jeune sœur, Mina, de 7 ans sa cadette. 7 ans, souligna-t-elle. N'oublie pas. À la différence de sa sœur, qui était certes gracieuse mais réservée, Mina était très vive, se mêlant de tout, et sa petite frimousse de fouine avec son nez pointu légèrement retroussé et ses cheveux en bataille lui donnait l'air mutin. C'est elle qui allait chercher les lettres pour sa sœur, c'est elle qui les ouvrait, qui les lui lisait. Imagine, une jeune fille pleine de passion, le corps en incandescence et la tête pleine de questions, lisant des lettres d'amour du fiancé de sa sœur. Qu'arrive-t-il ? Elle en tombe follement amoureuse. Lorsqu'ils se rencontrent tous les trois, ce qui se produit quasiment à chaque visite de Freud, c'est elle qui brille dans la conversation, qui l'apostrophe, le questionne sur ses études, lui demande de dérouler ses plans d'avenir. C'est elle encore qui lui fait des remarques sur sa tenue vestimentaire, sur la longueur de sa barbe. Martha n'y voit naturellement aucun mal. Sa jeune sœur, avec laquelle elle a toujours tout partagé, il est naturel qu'elle partage aussi le fiancé qui devient un fiancé pour elles deux.
Toby Nathan, dans ce roman, donc, vous nous dites très clairement que, comme dans la Bible, Jacob aime la cadette, mais il va épouser l'aînée, et c'est le cas de Freud. Il aime Mina, mais il épouse Marthe.
Alors, bon, c'est un roman, hein. C'est un roman. Mais je veux dire, je suis pas le premier à dire ça. Le premier à l'avoir dit, c'est Jung, hein, qui l'a dit, prétendant que Freud lui en a fait la confidence durant un voyage qu'ils ont fait ensemble. Hein. Et ça a été repris régulièrement ensuite. Ce qu'on sait, certainement, c'est que Mina, qui a eu pendant un bref moment un fiancé à elle, en fait, le fiancé est décédé, elle n'en a pas eu d'autre, et elle est venue habiter avec Freud, chez lui, donc depuis qu'elle a 20 ans, jusqu'à sa mort.
Mais... est-ce que la femme la plus importante dans la vie de Freud, c'est pas sa fille, Anna ?
Oui, ça sera sa fille. Est-ce qu'il aimait Martha, ou plutôt Mina ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celle qu'il aimera par-dessus tout, c'est sa fille Anna, ça c'est clair. Mais elle arrivera qu'en 1895, hein, je veux dire, c'est... Entre-temps, il a fait d'autres choses avant, hein, bon...
La maison avait été envahie par le même genre de gang composé de S.A. et deux ou trois d'entre eux s'étaient frayés un chemin jusqu'à la salle à manger. Face à cette situation critique, Madame Freud avait réagi comme tant d'autres gens en pareille circonstance, c'est-à-dire conformément à sa personnalité. De sa façon la plus hospitalière, elle avait invité la sentinelle postée à la porte à s'asseoir. Comme elle l'expliqua plus tard, il lui était désagréable de voir quelqu'un debout dans sa maison. Ceci créa un moment de gêne encore accru par son initiative suivante. Elle alla chercher l'argent du ménage et, le plaçant sur la table, elle prononça les mots qu'elle employait si souvent à la table familiale. « Messieurs, voulez-vous vous servir ?» Anna Freud les mena ensuite vers le coffre-fort, placé dans une autre pièce, et l'ouvrit. Le butin se monta à 6000 shillings autrichiens, près de 840 dollars, et Freud déclara amèrement, lorsque l'histoire lui fut plus tard contée, que lui n'avait jamais été autant payé pour une seule visite. Les intrus étaient en train de discuter entre eux des perspectives de leur entreprise de pillage lorsqu'une silhouette fragile et décharnée apparut sur le seuil. C'était Freud, attiré par le bruit. Il avait une façon de froncer les sourcils et de faire flamboyer ses yeux que tout prophète de l'Ancien Testament eût pu lui envier. Et l'effet produit par sa tête baissée acheva de décontenancer les visiteurs. Ils prirent rapidement congé en déclarant qu'il reviendrait un autre jour.
Alors, Jones vient à Vienne pour essayer de persuader Freud de fuir. On est en 1938. Il ne veut pas partir.
Ses enfants le pressent, lui disent « Tu peux pas t'en sortir, tu risques de finir au camp. » Et ils sont extrêmement inquiets pour lui. Et c'est Jones qui emporte la conviction. Moi, je pense qu'il lui a dit à la fin « As-tu pensé à Anna ?» Et je crois que c'est là qu'il a craqué.
Alors voici une lettre que Freud, juste avant le départ, adresse à son fils Ernst. Une lettre vraiment très belle et très pathétique.
Vienne, le 12 mai 1938. Cher Ernst, je t'écris sans motivation extérieure parce que je suis assis là, impuissant et inactif, tandis qu'Anna fait toutes les démarches dans tous les bureaux, expédie toutes les affaires. On peut déjà voir le voyage. Nous n'attendons plus que la déclaration selon laquelle nous sommes en règle avec le fisc qui doit arriver d'ici une semaine. Martin partira sans doute avec les siens avant nous, laissera sa femme et sa fille à Paris, ira à Londres avec le garçon. Il espère, et nous tous avec lui, que cela sera en pratique la fin de son mariage malheureux. Elle est non seulement méchamment cinglée, mais dérangée aussi au sens médical. Mais que va-t-il faire ensuite en Angleterre? Il ne peut pas vivre sans femme. Et il ne trouvera pas là-bas la sorte de liberté qu'il s'est permise ici. Deux perspectives sont préservées en cette sombre époque. Vous voir tous réunis et « to die in freedom ». Je me compare parfois au vieux Jacob que ses enfants avaient aussi emmené en Égypte à un âge avancé, comme Thomas Mann nous le décrira dans son prochain roman. Espérons que cela ne sera pas suivi, comme autrefois, d'un exode hors d'Égypte. Il est temps qu'Assuérus trouve le repos. Dans quelle mesure nos autres vieilles personnes réussiront à nous accommoder des difficultés de la nouvelle patrie? Ces questions restent ouvertes. Tu nous y aideras. Tout cela ne compte pas au regard de la libération. Anna y parviendra sans doute facilement, et c'est là le point décisif, car pour nous, entre 73 et 82 ans, toute cette entreprise n'aurait pas eu de sens. Je pourrais continuer à écrire ainsi pendant des heures, mais tu seras trop occupé pour le lire. C'est pourquoi, à toi, Lux, et à tous les garçons, seulement de cordiales salutations de papa.
Merci Didier Sandre. Ils partent donc. Ces quatre sœurs vont rester à Vienne et vont être déportées et assassinées dans les camps. Et lui, quand il arrive à Londres, il est épuisé. Il souffre atrocement aussi parce qu'il a ce cancer de la mâchoire. Et on dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il aurait demandé à mourir, que son médecin l'aurait euthanasié. Est-ce que c'est vrai?
Oui, oui, c'est absolument vrai. C'est-à-dire, ils partent les uns derrière les autres. Les nazis donnent les visas au compte-gouttes. Freud est le dernier à avoir le visa. Il s'en va, donc il obtient le départ de 16 personnes de sa famille. C'est beaucoup, hein, sauf de ses sœurs. Et les quatre sœurs, en effet, mourront en camp de concentration. Une mourra de faim, et les trois autres probablement assassinées. Maintenant, quand il arrive complètement à plat, c'est-à-dire que quand il sent que vraiment c'est la fin, qu'il a trop mal, à ce moment-là, il dit à Max Schur, tu te souviens, quand je t'ai pris comme médecin, tu m'as fait une promesse, maintenant, il est temps de la tenir. Et Max Schur dit, d'accord, mais Freud revient et il dit, il faut demander à Anna si elle est d'accord. Et Anna, évidemment, fond en larmes, et Max Schur dit, on peut plus, là, il souffre trop, et donc il lui fait une piqûre de morphine, il s'endort, quand il voit qu'il se réveille un peu, que c'était pas un coma, il lui refait une seconde piqûre de morphine, et Freud meurt de cette manière. Il a choisi le moment de sa mort, et sa mort, sa façon de mourir.
C'était le NRV France Inter plus de Freud, premier épisode. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, Freud et les rêves, écrivez-les, ça peut servir. Je vous souhaite le bonsoir.
Thank you.